On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est tout de même un très grand plaisir que de faire le pain. Une méthode de vie, oui.
De la farine, de l'eau, de la levure et un peu de sel pour l'assaisonnement.
Parce que le pain est une chose vivante. Ça s'est fait avec une levure qui est vivante.
Je viens chasser l'air.
Quand on fait du pain, on a besoin d'un coup de poing. Je sais pas trop pourquoi.
De manière à enlever tout ce gaz carbonique.
Pour le décourager, mettons, de grandir trop vite. La pâte, elle se réchauffe sous vos mains. C'est ça qui est si bien. On a le sentiment de cette chose qui prend forme, qui prend vie sous vos mains.
Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.
Elle faisait son pain à la maison, elle disait même, vous venez de l'entendre, que le pain est une méthode de vie, l'avez-vous reconnu?
Marguerite Yourcenar.
Bravo, on a reconnu Marguerite Yourcenar, effectivement l'écrivaine qui faisait son pain à la maison, c'était pour elle quasiment une religion. Et si le pain n'était plus seulement l'affaire des boulangers professionnels, mais une activité culinaire et nourricière accessible à tous? Faire son pain à la maison, c'est le défi qu'on relève aujourd'hui dans notre nouvelle leçon de cuisine, en direct et en public. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le studio d'On va déguster. Merci beaucoup d'être là, cette émission est à suivre en vidéo, en live stream sur franceinter.fr et sur l'appli de France Inter. Deux boulangers amateurs sont avec nous aujourd'hui pour nous raconter leur passion du pain, pour nous expliquer des choses techniques comme par exemple la différence entre la levure et le levain, mais aussi pour mettre la main à la pâte au sens propre, ou au sens sale d'ailleurs. On va voir à quoi ressemblera le plan de travail après votre intervention. Tout d'abord, Paul Magnette, bonjour.
Bonjour.
Votre nom dit sans doute quelque chose à nos auditeurs, mais moins en matière de pain que de diplomatie européenne. Vous êtes un homme politique belge, vous êtes bourgmestre de Charleroi, vous avez occupé le poste de ministre-président de la Wallonie. Vous venez d'être élu d'ailleurs à la tête du Parti Socialiste belge, mais rassurez-vous Paul, on n'est pas ici pour parler politique. Ouf. Aujourd'hui. Oui, Alain Badou, c'est juste après nous. Nous, on va parler de votre vraie passion, pas la politique évidemment, mais le pain. Le pain, vous venez d'écrire un formidable petit livre, très didactique, pédagogique, je l'ai adoré. C'est Le Chant du Pain, petit traité de l'art boulanger à la renaissance du livre, avec les superbes photographies de l'ami Jean-Pierre Gabriel, qui est venu d'ailleurs aussi, Jean-Pierre Gabriel à ce micro, nous parler cuisine thaïlandaise, mais également cuisine coréenne. Et vous allez, cher Paul, nous préparer un pain très simple à faire à la maison.
Le pain platine, c'est le pain le plus simple, c'est le pain traditionnel en Belgique, dans le nord de la France aussi, je pense, largement. Marie-Laure Fréchet pourra le confirmer.
Et oui, puisque notre deuxième invité vient du nord, on va
c'est
le voir.
C'est le plus facile, c'est pratiquement impossible à rater. C'est pas forcément celui qui est le plus riche sur le plan aromatique, mais quand on se lance, c'est bien de se lancer par des choses très simples. C'est un peu comme quand on apprend la musique.
C'est ça.
Quelques gammes, quelques petits morceaux tout simples pour se donner l'envie de continuer.
Et bien voilà, vous allez décomplexer ceux qui nous écoutent et ceux qui sont avec nous dans le studio 621 de la maison de la radio. On le disait, avec nous également, elle nous vient du nord de la France, les Hauts-de-France comme on dit. C'est Marie-Laure Fréchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste gastronomique, vous organisez chaque année le festival Mange Lille. C'est au mois de septembre, ça prend une ampleur incroyable d'année en année. Et vous avez plusieurs passions dans la vie. Alors bien sûr, la frite, vous l'avez déjà défendue à ce micro il y a quelques temps. Et le pain, auquel vous consacrez, oulala, attention, une somme très ambitieuse. Encyclopédie du pain maison aux éditions Flammarion. Je l'ai à mes côtés, je vais tenter de le soulever. Il est ici, vous le voyez, pour ceux qui sont derrière leur écran et il y a de la vidéo. Et on va voir que c'est un vrai livre de femme, parce qu'il y a une auteure, c'est vous évidemment, une photographe, Valérie Lhomme, une styliste, Bérangère Abraham, une éditrice, Rima Bouzid, qui est avec nous d'ailleurs de chez Flammarion. Dans un instant, vous allez nous apprendre une étape un petit peu plus technique, sophistiquée, c'est le pain au levain, et notamment faire un levain à la maison, c'est possible.
Voilà, on va parler de ce drôle d'animal qui est là, dans le bocal.
Et oui, qui est une espèce de blob vivant dans son bocal. On va voir ça avec vous, puisque vous allez passer également, bien sûr, derrière le plan de travail dans la famille des chroniqueurs aujourd'hui. Je demande Antoine Gerbel et Éric Morin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Antoine Gerbel, le vin, en deux mots.
Dans le doux, ne t'abstiens pas.
Dans le doux, ah, pas mal. Le doux, on parle du département.
Exactement.
Ah, ça y est, je commence à avoir une idée, vu la couleur du vin que vous avez. On peut même parler de chardonnay ?
On peut parler de chardonnay.
Très bien, on va voir ça avec vous Antoine Gerbel et notre avocat Éric Morin qu'on est ravis de retrouver, qui a pour rôle dans l'émission de relever les coquetteries et les inepties de la réglementation en matière d'alimentation. Cher Éric.
Bonjour, on va parler aujourd'hui de Jean-Pierre Raffarin, ça tombe bien. Ça rime avec pain.
Oui, et on va voir que Jean-Pierre Raffarin, effectivement, a eu un rôle en matière de pain. Les techniques de panification et les recettes de nos invités, ainsi que nos infos pratiques, le podcast de l'émission Va Déguster, le podcast aussi de toutes les chroniques des chroniqueurs et chroniqueuses sont d'ores et déjà disponibles sur franceinter.fr à la page On Va Déguster.
France Inter, On Va Déguster avec François-Régis Gaudry.
J'ai abandonné depuis quelques années des idées, toute idée qui pouvait me laisser, entre guillemets, dériver pour essayer d'exacerber des arômes. Et je pense que c'est pas du tout ce que doit être le rôle du pain. C'est l'aliment premier, c'est l'aliment le plus simple, c'est l'aliment de la simplicité, de l'humilité. Et si on sent un parfum subtil de la terre, de l'humus, du grain, je pense que c'est très suffisant. Après, aller mettre quoi que ce soit dans le pain pour le parfumer et essayer, entre guillemets, de séduire le chaland, des gluten de maïs torréfiés et tout un tas de choses comme ça et qui donnent une signature aromatique. Ça peut être aussi par des levains sur lesquels on recherche à ce qu'ils apportent vraiment une signature très particulière. Et moi, le levain, c'est pas du tout ce que je recherche non plus. Je préfère qu'il apporte le souffle, la respiration, que le pain soit un poumon qui se gonfle, voilà, et que ça soit aussi extrêmement simple et subtil. Parce que ce que j'ai compris aussi dans la démarche et qui m'a inspiré, c'est ce rôle magnifique du pain et auquel j'attribue un mot qui peut peut-être surprendre, c'est le mot chevaleresque. Voilà, je pense que le pain est le chevalier de la table, c'est-à-dire qu'il est là pour servir, pas là pour prendre le premier rôle.
Vous avez forcément reconnu cette voix.
C'est Roland Feuillas, bien sûr.
Roland Feuillas, vous nous le présentez, Marie-Laure Fréchet.
Alors Roland, c'est... Comment on présente Roland ? Roland, c'est quelqu'un qui a changé de vie pour le pain. Voilà, qui a eu une première vie... Enfin, il était ingénieur et puis est allé au bout de cette vie-là. Et c'est à travers le pain qu'il a retrouvé du sens. Et voilà, et ça démarre dès le grain, puisqu'il a recréé toute une filière... redévelopper la culture des blés anciens et voilà, et depuis il enseigne aussi, il transmet beaucoup, et ça c'est important, vers un pain vivant, un pain nature avec un N majuscule comme il aime à le signaler, un pain qui respecte la biodiversité et un pain qui fait du bien surtout.
Un pain nourricier, vous l'avez dit, Roland Feuillas, le boulanger au chapeau. Hein, on est à Cucugnan dans les Hautes-Corbières. Il est devenu un peu l'un des porte-paroles, peut-être bien l'un des plus écoutés sur, comme vous le dites, Marie-Laure Fréchet, le pain naturel, le pain vivant. C'était d'ailleurs ce qu'on entendait, un extrait d'une des émissions, une de nos émissions de 2015, qu'on vous propose d'ailleurs en réécoute sur notre site internet. Évidemment, Roland Feuillas, personnage incontournable, mais également une espèce de maître qui a des disciples. Vous en êtes, on peut le dire ainsi, puisque vous avez Paul Magnette et Marie-Laure Fréchet en commun, ce grand ambassadeur d'un pain nourricier, d'un pain humble, d'un pain simple, Paul Magnette.
Effectivement, et comme aime à le dire Roland, le pain crée un mycélium, crée des liens entre des hommes et des femmes qui se rencontrent. Et c'est un ami il y a 5-6 ans qui m'a dit, puisque tu aimes le pain, tu dois absolument aller à Cucugnan, faire le voyage, je devrais dire le pèlerinage à Cucugnan, pour rencontrer Roland, voir les lieux qui sont absolument fabuleux, le superbe moulin de Cucugnan qu'il a restauré. Mais discuter, parler, écouter aussi Roland, qui est non seulement un formidable boulanger, qui a une connaissance technique éblouissante, aussi un très grand meunier, parce que c'est un vrai métier, la meunerie, et que la qualité de la farine est essentielle pour l'art boulanger. Et puis, c'est un vrai penseur du pain. Il a réuni une documentation absolument encyclopédique sur le pain dans toutes ses dimensions, autant la microbiologie que l'histoire, l'anthropologie, la sociologie. Donc le pain est toujours le pain avec un P majuscule, comme le rappelait Marie-Laure, est toujours prétexte à de longues discussions, réflexions presque métaphysiques sur ce que ça nous dit de l'état de notre époque, de l'histoire de l'humanité. Donc c'est toujours passionnant.
Est-ce que c'est aussi cette dimension justement à la fois nutritionnelle, sociétale, la dimension artisanale du pain fait à la maison qui vous a poussé, qui vous a offert entre guillemets le déclic de fabriquer enfin votre propre pain à la maison, Marie-Laure Fréchet ?
Moi, le pain, à l'origine, c'était plutôt un sujet d'étude. Je suis journaliste culinaire. Quand je m'empare d'un sujet, quand j'écris sur un sujet, j'aime comprendre. Donc forcément, je vais cuisiner, je vais tester. Pour voir comment ça marche. Donc, un jour, j'ai été amenée à écrire sur le pain. Et j'ai commencé à faire du pain. Et j'ai sorti des choses... Paul en parle dans son livre, des briques, voilà, des choses...
Que l'on appelle des parpaings, c'est ça?
Des parpaings, oui, voilà, exactement. Et puis là, on cherche à comprendre pourquoi ça ne marche pas, et puis on interroge, on va voir des boulangers, et petit à petit, on fait ce chemin-là. Et puis finalement, on tombe vraiment dans le pétrin, parce que, voilà, on s'aperçoit que ce qui est intéressant dans le pain, contrairement à faire des gâteaux, tout simplement, le pain, c'est vivant. Et voilà, et c'est ce côté, justement... compliqué à maîtriser.
Parfois même imprévisible.
Oui, très imprévisible, qui est super intéressant, je pense. Voilà, cette humilité qu'on a en permanence devant la pâte, devant le four, même avant de le couper, on ne sait pas si un pain est réussi. Après, qu'est-ce qu'un pain réussi, on peut en discuter. Et voilà, et ça, c'est vraiment très intéressant, quoi.
Et ensuite, de miche en miche, on se rend compte qu'on peut arriver à des résultats extrêmement gratifiants, satisfaisants. Paul Magnette, est-ce que c'est une quête? Est-ce que c'est un mystère, le pain? Un cheminement qu'on essaye de... un mystère qu'on essaye de percer?
Oui, c'est un peu une quête, parce qu'effectivement, surtout le pain au levain, le pain à la levure, on en parlera tout à l'heure, c'est finalement très simple, mais c'est déjà une bonne manière de se lancer, d'avoir envie de faire du pain et de redécouvrir le goût le plus pur de la céréale. Mais le pain au levain, c'est une vraie alchimie, et donc c'est ça qui est absolument fascinant. Quand on lit les grands traités de la fin du XVIIIe siècle, le docteur Malouin, Antoine Parmentier, qui écrivait sur le sujet, on voit qu'il s'arrache les cheveux pour essayer de donner des conseils sur la manière de mener le levain. Il y a toute une série de trucs et ficelles, de connaissances scientifiques qu'on a déjà à l'époque sur le gluten, etc. Mais finalement, ça reste fondamentalement de l'instinct. Selon le temps qu'il fait, plus ou moins orageux, chaud, froid, humide, l'art de pétrir, de façonner, de cuire sera extrêmement différent d'un jour à l'autre. Et c'est ça qui fait de cette quête quelque chose de... mystique, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ça nous ramène en plus à ce qui a été la base de l'alimentation depuis 6000 ans, puisqu'on mangeait encore 1 kilo de pain par jour au début du siècle dernier. On n'en mange plus 1 kilo par semaine maintenant, ce qui est encore pas si mal. Et tout le reste de notre régime alimentaire était construit autour du pain, qui était la base de l'alimentation. Donc ça donne aussi un peu cette impression de faire un voyage vers ce passé où le pain avait une place tellement centrale dans nos civilisations.
Je ne voudrais pas faire de la psychologie de comptoir, mais est-ce que dans votre vie politique assez agitée, vous occupez des fonctions, j'imagine, qui vous procurent un emploi du temps extrêmement chargé, est-ce que le pain, c'est un sas de décompression, un exutoire, une espèce d'acte un peu personnel, relaxant, reposant dans votre vie?
C'est une espèce de retraite au sens premier du terme, effectivement, et en même temps, parce que je pense qu'il faut aussi donner envie aux auditeurs de s'y lancer, c'est parfaitement compatible avec une vie professionnelle même chargée. Tout est question de gestion du temps, de gestion des températures. Je pense qu'en lisant le livre de Marie-Laure, j'ai l'impression de refaire mon propre itinéraire dans la découverte avec toutes les erreurs qu'on peut accomplir, mais qui font que, parce qu'on est des amateurs, on peut aussi expliquer aux amateurs comment on est arrivé un jour à faire des pains qu'on trouve satisfaisants. C'est un exercice qui demande, comme le disait Roland Feuillas, beaucoup d'humilité face à cette pâte. C'est elle qui nous dicte finalement à quel moment on doit la travailler, pas la travailler, l'enfourner, pas l'enfourner. Et donc c'est un rapport qui crée à la fois une grande concentration et puis une certaine distance.
Je crois que vous parlez de yoga, Marie-Laure Fréchet.
Oui, ça redonne un sens du temps. C'est un moment où on s'extrait un petit peu de ses occupations pour prendre du temps à soi. On entend souvent que le pain, ça prend du temps. Je dirais, ça dure longtemps. Ça prend pas longtemps, finalement. Même un pain au levain qui s'étale sur une durée à peu près de 24 heures, on va dire, globalement, on calculait hier avec Paul, c'est 3 fois 10 minutes. Sur 24 heures. Et pendant ce temps-là, on fait beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est juste peut-être aussi, de temps en temps, c'est 3 fois 10 minutes, c'est s'extraire d'un temps où on court beaucoup pour se consacrer à quelque chose qu'on aime.
C'est un temps long, mais ce n'est pas chronophage.
Ça dure longtemps.
Là, vous parlez de l'apport personnel, mais il ne faut pas oublier le partage. Parce qu'en famille, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on partage encore? Ou avec ses amis, on peut arriver avec son pain sous le bras. Moi, j'ai un ami qui est régulièrement, Olivier, qui arrive à la maison avec son pain, qu'il a fait avec amour, partagé. On revient là, c'est vraiment l'essence même.
Toi, Jamel, vous êtes mère et père de famille. Est-ce que vous feriez du pain si vous étiez sans enfance, pas en couple, célibataire? C'est vrai qu'il y a aussi une affaire de mission presque nourricière.
Et il y a un côté un peu magique. Quand on ramène un pain, voilà, c'est pas le même effet que ramener une tarte aux pommes, bizarrement.
Absolument.
Tout à fait. Exactement.
On va évoquer dans un instant, évidemment, le pain dans ses différents ingrédients, car faire du pain à la maison, c'est faire attention aussi à ses matières premières. Est-ce que d'ailleurs, ça peut être un acte de résistance par rapport à une forme d'industrialisation qui a touché le pain, que vous évoquez d'ailleurs dans une introduction fort intéressante de votre livre, Paul Magnette, dont je rappelle le titre, Le Chant du Pain, petit traité de l'art boulanger. Vous racontez la façon dont le pain a vécu finalement à l'époque des révolutions urbaines et industrielles, un process industriel avec des blés modernes, beaucoup plus costauds, qui font de la gonflette, qui permettent de faire des pains assez bodybuildés. Effectivement, il y a cette idée de revenir au pain des origines.
Oui, on peut comprendre à l'époque qu'il y a eu cette quête, parce que on avait quand même eu très faim. Il y avait eu des famines, les temps de guerre, les temps de crise économique, etc. Et donc l'objectif, c'était du pain blanc pour tout le monde. Mais du coup, ça s'est payé aussi de dégâts extrêmement importants qui ont été faits. D'abord, une hyper-standardisation des blés, de moins en moins de blés différents, des blés sélectionnés pour leur force boulangère, pour leur simplicité de fabrication, et puis des processus de fabrication de plus en plus mécanisés, industrialisés. C'est pas forcément un problème de mécaniser certains éléments de la production, mais quand tout est hyper-mécanisé, j'ai visité des boulangeries industrielles où on ne voit pas un être humain.
On est dans des usines à baguettes.
Tout est totalement mécanisé. Ouais. C'est effrayant de voir ça. Et à la fin, on a un produit qui est un produit mort, un produit qui n'a plus aucun, qui n'a plus rien du lien avec le terroir et le vivant dans lequel il est censé être né.
Éric Morin.
Depuis le début de l'émission, je vois que des parallèles avec le vin en réalité. Mm-hmm. Et finalement, cette standardisation des blés, cette standardisation du pain, elle rejoint ce à quoi on peut assister aujourd'hui.
Absolument.
Dans le milieu du vin.
Et vous allez voir justement que le parallèle, il va enfoncer le clou, notre ami Antoine Gerbel, dans un instant, avec une cuvée absolument extraordinaire. Et bien justement, Paul Magnette, vous allez passer derrière le plan de travail pour une démo en direct. On revient justement au pain dans sa dimension artisanale et homemade, pour parler en bon français. Un pain platine, et ça va se passer après une pause musicale. L'émission est réalisée par Laurent Thomas, avec Julien Dumont et Fabrice Desmas, Nadia Chougui à la préparation et Djoubaka, justement, notre programmateur musical, nous propose une pause. Pixies, ça va rappeler des souvenirs à la jeunesse de Paul Magnette, on a à peu près le même âge. Catfish Kate, extrait de leur nouvel album. Belle journée les copains, sur France Inter. Le pain, l'ami ou l'ami comme on veut, qui vous veut du bien. Et un ami, on va le voir, qu'on peut dompter à la maison. C'est justement tout l'enjeu de cette émission. Paul Magnette a rejoint le plan de travail dont va déguster le Champ du Pain, petit traité de l'art boulanger avec les photographies de Jean-Pierre Gabriel. Et il y a d'ailleurs un conseil, puisque Roland Feuillaz a signé la préface de votre livre, un conseil que l'on va suivre. Il écrit « Faites du pain, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, aucunement ».
Non, je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur, au contraire, il faut se lancer. Même un pain pas extrêmement réussi, s'il est fait avec une bonne farine, sera toujours meilleur qu'un pain industriel. Et je crois aussi qu'il ne faut pas vouloir opposer le pain qu'on fait à la maison et le pain qu'on achète chez l'artisan. Je crois au contraire que la plupart des boulangers amateurs ne font pas leur pain tous les jours, mais quand ils ont pris le plaisir de manger du bon pain, ils ne vont plus aller en acheter en grande surface emballé sous plastique. Ils iront au contraire l'acheter chez un bon artisan.
Et vous pratiquez, on me dit qu'il faut que vous parliez un peu plus dans le micro, je suis désolé, voilà, c'est les aléas du direct. Pain platine, alors on rappelle ce qu'est un pain platine, c'est vrai que les nordistes, mais également les wallons, les belges connaissent bien ce pain, qui ressemble un peu, on pourrait le dire, à un cake.
Oui, si on veut, c'est cuit dans une platine, donc un petit,
on appelle ça une platine.
Oui, une platine, ou ça peut être noir, enfin, c'est différentes formes, tailles, etc.
C'est un moule à cake.
C'est exactement un moule à pain de mie, donc voilà, c'est facile. Ça a l'avantage que même si le façonnage n'est pas très bien réussi, ben, le pain aura quand même de la tenue et une forme après coup. On peut en cuire plusieurs en même temps aussi. Donc c'était le pain, en tout cas en Belgique, dans le nord de la France, c'était vraiment le pain des familles, le pain des grands-mères. Donc ça reste un très bon pain.
Et vous allez nous prouver que c'est assez facile à faire pour commencer, pour s'initier, pour ceux qui nous entendent et qui voudraient se dire « Oh là là, j'ai envie d'avoir un pain frais pour nourrir mes enfants, pour le petit déjeuner, pour faire des tartines. » Eh bien justement, ce pain est tout indiqué. Alors, matière première, on les passe en revue assez rapidement. Farine, évidemment, de belles tenues. On parle là de semences paysannes.
Des belles farines les plus naturelles possibles. Ici, j'ai, puisqu'on parlait de Roland Feuillaz tout à l'heure, une farine de Cucugnan.
Oui, puisque c'est aussi un moulin qui vend des farines.
J'en ai une autre, on ne peut pas faire de réclame, mais j'en ai une autre qui vient de ma région, qui est aussi, aussi des blés anciens. La Wallonie est une terre où on a cultivé de l'épeautre depuis à peu près 1000 ans. Ça reste le premier producteur mondial d'épeautre, d'ailleurs, qui est une farine très intéressante à redécouvrir sur le plan gustatif, aromatique et nutritionnel.
Parce que ces farines ont plus d'intérêt aromatique, gustatif, mais également nutritionnel. Toutes les études le prouvent, elles sont riches en nutriments.
Elles sont beaucoup, beaucoup plus riches en nutriments. Et puis surtout, elles font du bien. C'est des farines qui ont du sens. Quand on sait que le pain industriel, on a dû mettre des engrais dans la terre, des pesticides, des herbicides, des fongicides, que tout ça, il y a des résidus dans le pain. Quand on sait que tout ça tue en plus les sols, eh bien se dire qu'au contraire, on utilise une farine qui a été, dont le blé a été cultivé de la manière la plus naturelle possible, qui va réenrichir les sols, qui va contribuer à la biodiversité. Tout ça donne aussi, au moment où on mange le pain, on pense à ça aussi. Et donc on pense à ce qu'on fait de bon à la nature. Et puis on peut plus s'en passer, je vous assure, une fois qu'on a commencé.
Et bien justement, vous allez y aller, puisque vous êtes assez accro à la panification.
Ouais, donc on va faire très simple.
Vous utilisez une farine de blé.
Ici, c'est une farine d'épeautre.
D'accord.
D'épeautre, donc de Roland Feuillaz, cultivée dans le Gers.
Très bien. Voilà.
Donc on verse simplement le kilo de farine dans un... Moi j'utilise un cul de poule en plastique, c'est le plus simple. On y ajoute pour un kilo de farine deux tiers de litre d'eau.
Voilà, très bien.
Tout simple.
Deux tiers de litre d'eau. Voilà. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les techniques et toutes les recettes de pain sont de toute façon consultables sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Voilà. Et sur nos pages Instagram, Le Champ du Pain pour ce qui
est. Et sur Le Champ du Pain et également dans vos livres évidemment. Voilà. Ah, Le Champ du Pain, il y a aussi
une petite page Instagram.
Très bien.
Quelques petites vidéos pour revoir ces gestes-là.
C'est bon à savoir. Le Champ du Pain.
Un peu de levure. Moi, j'utilise la levure instantanée parce que c'est exactement la même que la levure fraîche. C'est beaucoup plus facile à conserver.
Alors là, on parle d'une poudre, de couleur beige.
Oui, voilà. C'est des micro-granulés, en fait, de levure déshydratée. Mais là, exactement, comme elle est instantanée, on ne doit pas la réveiller dans l'eau au préalable. On la met directement.
Vous en avez mis quelle quantité?
J'ai mis 2 cuillères à café rase, qui fait 5-6 grammes.
Très bien. Et on rappelle qu'une farine... pour donner sa définition, souvent elle est fabriquée à partir de mélasse de betterave et de canne et elle facilite un peu
la levure. Oui.
Voilà.
La levure.
Évidemment.
Oui, ça a l'avantage d'être très simple. Évidemment, Moi, je fais pratiquement plus de ce pain-là, parce que quand on fait du pain au levain, c'est tellement meilleur, à tout point de vue, c'est tellement plus agréable à faire, que on ne fait plus de pain à la levure que parce qu'on n'a pas le temps de faire autrement, par exemple, ou parce qu'il manque du pain, il faut aller vite. Mais ça reste néanmoins des pains qui peuvent être très intéressants. Et puis, un peu de sel quand même, pas trop. On en met beaucoup trop dans le pain industriel. En général, c'est 20 grammes, voire plus, par kilo de farine. Uh-huh. 15-16 grammes suffisent amplement. Un bon sel, ici, vient de... C'est un ami qui me l'a rapporté, de Noirmoutier.
Un sel naturel. Et puis, gros sel, d'ailleurs.
Gros sel, oui, ça fonctionne aussi bien.
On a des réactions sur nos réseaux sociaux concernant la qualité de l'eau. C'est vrai que ça entre vraiment en ligne de compte. Quelle eau vous avez utilisée, en l'occurrence?
Alors là, j'ai utilisé l'eau de France Inter, pour ne rien vous cacher.
D'accord. Donc, une eau du robinet.
Voilà, une eau du robinet.
Mais on dit souvent qu'il faut éviter l'eau du robinet, notamment parce que le chlore et éventuellement d'autres additifs peuvent bloquer un peu la fermentation.
Avec la levure, c'est pas un problème. D'accord. Si vous faites un pain au levain, le chlore va tuer les bactéries, les levures sauvages, donc ça, évidemment, c'est un problème. Et puis sinon, vous pouvez utiliser ces petits charbons actifs qu'on met dans la carafe, laisser l'eau sans la couvrir pendant une dizaine d'heures, le chlore s'évapore et puis l'eau est propre
et naturellement filtrée.
Voilà, c'est pas la peine d'acheter des bouteilles en plastique, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens si on essaie de faire un pain qui est vraiment nature. Et puis l'opération très simple, moi je fais avec une spatule, c'est beaucoup plus simple que le faire à la main. On tient d'une main,
on mélange. Spatule en bois.
Ouais, spatule en bois.
Vous pouvez pencher un tout petit peu votre saladier
pour que les caméras... En essayant de ne pas mettre de farine partout sur le...
Capte vos gestes.
Sur le plateau de France.
Pour l'instant, vous êtes très propre. Hein. Voilà. Et là, ça se mélange tout naturellement.
Je vais rajouter un peu d'eau, parce que c'est une farine qui demande un peu plus d'eau. Oui. Donc ça, on peut toujours en rajouter pendant le geste.
Oui.
Et puis, voilà, en gros, la première étape, c'est déjà fini. C'est-à-dire qu'on a bien mélangé la farine, l'eau, le sel, la levure.
Pour obtenir un mélange à peu près homogène.
Pour obtenir un mélange qui, à ce moment-là, est encore très collant.
Oui.
Et donc, moi, je recommande pas d'essayer de le pétrir à ce moment-là, ou bien on le fait au robot, mais pas de le faire à la main, parce qu'on va s'en mettre partout, c'est décourageant, etc. Alors que si on le laisse une bonne heure, bon, ici un peu plus, parce qu'il a fait le voyage, mais une heure ou deux, sans rien faire, le gluten va naturellement commencer à se constituer sous l'effet de l'eau.
Donc là, vous avez vraiment mélangé grossièrement, c'est quelques tours d'une cuillère en bois.
Ça, c'est à peine une minute, du moment. Bon, il reste un peu de farine, donc ça va pas. Mais il faut qu'on voit plus la farine, qu'on voit plus l'eau, et on a le premier état de la pâte.
C'est ça, qui est légèrement, effectivement, brillant, collant.
Encore aussi. Un peu grumeleuse, un peu collante.
Et on obtient, alors évidemment, on est obligé de griller quelques étapes. Hein.
Voilà. Au bout d'une bonne heure, elle aura déjà commencé à se structurer. Alors, il faut quand même, je pense, la travailler un peu. Il y a des méthodes sans pétrissage du tout, mais ça donne des pains qui peuvent être un peu friables, comme les pains qu'on fait à la machine à pain. Alors que si on retravaille un peu la pâte, on va redonner de la tension, redonner de la structure à cette pâte. Le plus simple, c'est d'humecter la main, légèrement.
Là, on précise évidemment que vous aviez... préparé à l'avance.
Cette pâte-là a été faite un peu à l'avance.
Une pâte un peu à l'avance. Voilà. Elle a même fait le voyage depuis la Belgique.
Voilà, exactement.
Et là, vous allez la retravailler un peu.
Et puis la retravailler notamment très simplement, dans son moule. Très simplement, qui consiste simplement à glisser la main sous le plat et attraper le pâton et le replier sur lui-même. C'est ce qu'on appelle un rabat.
Tout simplement. Tout là, simplement. Vous venez de là.
Voilà. Donc voilà, le pétrissage, c'est quelque chose de très doux. On a toujours cette image où on voit des pâtes très dures qu'on va pétrir avec beaucoup d'efforts. D'ailleurs, on appelait le geindre, le garçon boulanger qui devait pétrir la pâte, tellement c'était difficile. Mais à l'époque, on mettait moins d'eau dans la farine et c'était un travail de pétrissage très lourd. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'on voit la texture du oui. gluten qui s'est formé tout seul. Il est déjà presque formé, mais pour lui donner encore un peu plus de structure, on peut simplement, voilà, on le soulève, on le replie sur lui-même.
Et ce rabat permet notamment de chasser l'air?
Ça permet de dégazer un petit peu, de chasser un peu le gaz carbonique s'il y en a trop. Mm-hmm. Et puis ça permet surtout quand même de lui donner un petit peu plus de structure et d'éviter qu'on ait un pain qui soit justement comme un cake et qui se désagrège quand on le coupe. Alors ça, on peut le faire.
Ce pétrissage, combien de temps, combien de fois vous... À la main, quand vous travaillez à la main.
Simple, comme disait Marie tout à l'heure, en fait, ça prend pas de temps. Et surtout, si vous le faites le dimanche, vous êtes à la maison, vous cuisinez, vous faites ce que vous avez envie de faire le dimanche. Plutôt que de le faire pendant 10 minutes, tout le temps, le même geste, vous passez à côté du plat, vous faites ça 4-5 fois, puis vous le laissez reposer. Une demi-heure plus tard, vous recommencez tout au long du temps de ce qu'on appelle le pointage, c'est-à-dire le moment où la pâte va se
façonner. Vous avez vu que le premier mélange des ingrédients était extrêmement simple et que là, on a affaire à quelques gestes, on a juste raccourci évidemment les temps de repos.
Oui.
Mais là, vous êtes vraiment dans la vraie gestuelle telle que dans
Exactement.
Votre cuisine.
Ça ne demande vraiment aucun effort. Au contraire, c'est un geste très doux.
Très bien.
Il faut juste penser à essayer d'incorporer de l'air, c'est ce qui va donner de la texture, à l'étendre, ce qui va aussi renforcer un peu la structure de la mie, et puis à le replier sur lui-même, parce que ça va recréer entre le gluten, c'est un peu comme un textile en trois dimensions, donc c'est toutes les petites protéines qui vont se lier les unes aux autres et donner sa structure au pain. Donc quand on le replie, on contribue à créer cette structure. Et puis on peut le laisser reposer comme ça.
Voilà. Et là, on a envie quand même de le mettre dans son moule.
Alors, on va le mettre dans son moule. Alors, en principe, je le fais quand même sur un plan de travail, mais je n'oserais pas le faire sur le beau velours que j'ai déjà un peu taché de France Inter.
C'est un rideau que Laurent Thomas, notre réalisatrice, nous a rapporté de chez elle. Elle ne serait pas très contente.
Voilà. Donc, je vais le faire dans le plat. Mais là aussi, le façonnage, c'est vraiment très, très simple. Le plus simple, c'est de le plier un peu en quatre, comme ça, comme une enveloppe.
D'accord. Voilà,
le plier sur lui-même, de sceller un peu ce... Et puis, on le retourne et on lui donne à peu près la forme du... La forme du moule, il ne faut pas se compliquer la vie.
D'un boudin à peu près.
Voilà,
et vous le déposez dans ce moule à platine, dans cette platine.
Dans cette platine.
Voilà, et là on obtient effectivement
ce pain
qui a été, qui est prêt en fait à être enfourné tout simplement.
Il faut qu'il ait un deuxième temps de fermentation qu'on appelle l'après, qui dépend, alors on va dire combien de temps, ça dépend combien on a mis de levure, ça dépend de la richesse de la farine, ça dépend de la température, mais en général un pain à la levure, une demi-heure c'est suffisant, et il y a un test qui est aussi bien expliqué dans le livre de Marie-Laure, on appuie comme ça du doigt, si ça remonte tout de suite, ça veut dire qu'il est prêt, et il peut être enfourné.
Là c'est pas mal remonté.
Ouais, c'est bien remonté, là, on voit qu'il est vif,
donc il est
prêt à être enfourné.
On va le
mettre dans le four de France Inter.
Très bien, un mot de la cuisson.
La cuisson, alors dans un four à 240 degrés, à peu près au milieu, moi je mets plutôt au tiers inférieur, parce que la plupart des fours chauffent plus en haut qu'en bas, et donc on risque de le brûler, mais ça chacun doit essayer un peu avec son four. En jetant un petit verre d'eau sur la lèche frite qu'on a mis au fond du four pour créer un effet de vapeur, ce qui va permettre aussi que la croûte du pain ne se fige pas trop vite et que donc il continue à avoir ses troisième pouces au moment de la cuisson. Et puis au bout de 20 minutes, on l'ouvre pour évacuer ce qui reste de vapeur. On baisse la température à 210 degrés, c'est la chaleur tombante. On imite en fait l'effet du four en pierre dont la chaleur diminue heure après heure et on le laisse encore à peu près une vingtaine de minutes.
Et là, on obtient cette très belle brique de pain.
Extrêmement simple.
Mais qui est superbe, bien blond, rebondi. Hein, on sent qu'effectivement, il a bien fermenté. Et je vous propose, Paul Magnette, bravo pour cette jolie démonstration. On vous le disait, ce pain platine est une bonne façon de commencer à la maison. Je vous propose d'en couper une tranche et on va faire goûter cette tranche à une auditrice. Oh, elle n'a pas été tirée au hasard parce que on apprend qu'elle fait du pain à la maison. Votre prénom ?
Louise.
Louise, vous avez quel âge si je peux me permettre ?
J'ai 21 ans.
Et vous faites du pain à la maison ?
C'est ça.
Où ça ?
À
la maison.
C'est ça.
Oui, enfin, voilà, vous êtes... Non, très bien, vous pourriez vivre à l'étranger ou je...
C'est ça, en fait, j'habite à l'étranger.
D'accord, oui, vous vivez à l'étranger en plus.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire mon pain, parce que le pain français me manquait tellement.
C'est ça, et vous avez fait votre pain à la maison, et maintenant c'est une activité que vous pratiquez régulièrement.
Oui.
Alors on va vous faire goûter ce pain platine, plus un autre pain, puisque évidemment on sait faire aussi du levain chez les Magnettes.
Trois pains, parce que ça c'est le pain platine, donc vraiment le pain le plus élémentaire. Le goût que l'on ressent c'est vraiment celui de la céréale. Ça, c'est un pain avec la farine d'épeautre de Roland Feuillas, mais pur levain.
Mm-hmm.
Et ça, c'est un pain de petite épeautre, qui est une farine très, très pauvre en gluten. Donc, sa maille sera plutôt serrée, mais c'est aussi pur levain. Mais ça permet, hein, Roland le disait tout à l'heure dans l'extrait, on n'essaye pas d'ajouter des tas de graines, d'épices. Enfin, on peut si on veut, mais si on fait un pain très simple, c'est vraiment l'eau, la farine, le sel qui sont la base, et le sel en très petite quantité, ça permet vraiment de retrouver ce goût de la céréale.
Sans maquillage, le pain dans toute sa simplicité, le pain dans son plus simple appareil, c'est quand même la philosophie de Roland Feuillas. Alors Louise, vous goûtez d'abord, on commence par le pain platine quand même.
Ça marche.
Allez-y. Vous le goûtez. Ah, vous le sentez. On sent la professionnelle.
C'est comme du vin.
Ça sent quoi ?
Ça sent mon enfance.
Pas mal.
Ça sent le goûter.
C'est un beau compliment, Paul Magnette.
Oui.
Vous le prenez ?
Oui, bien sûr.
Il se mâche déjà.
C'est mon enfance.
Ça vous va ?
Le pain du Nord.
Et la mie est assez serrée, pas trop alvéolée, mais ça permet notamment de faire de belles tartines.
Voilà.
À propos de mie, on Antoine a une question d'auditeur. Jean-Charles nous demande, on dit souvent que mon pain est bon, mais je le trouve trop friable. Il part en miettes assez vite. Quels sont les conseils que vous pourriez me donner pour avoir plus de tenue ?
Marie-Laure Fréchet ou Paul Magnette ?
Alors, soit c'est la...
Soit
c'est la farine elle-même, soit c'est le manque de pétrissage. Donc, il faut quand même un petit peu pétrir. ou bien ne pas pétrir, mais laisser au pain dans ce qu'on appelle l'autolyse, donc ce moment où la structure du pain se construit toute seule sous l'effet de l'eau, cette structure de se construire. Et puis je pense que les rabats, c'est une bonne technique, c'est très simple, on replie la mie sur elle-même, ça redonne de la structure.
Mais Marie-Laure Faché, on dit souvent, et c'est une réalité d'ailleurs, que les farines anciennes issues de blé paysan ou de blé de population ont quand même moins de force, c'est-à-dire moins de gluten que des blés modernes. Ils ont d'ailleurs été modernisés pour cette raison-là, avoir de la force.
Ils n'ont pas plus ou moins de gluten.
Oui.
Entre les blés modernes et les blés anciens, c'est plus ou moins la même quantité.
Tout à fait.
C'est le poids des molécules de gluten qui est différente.
D'accord.
Elle est plus importante dans les blés modernes. D'où, en fait, certains problèmes de digestion. Au-delà des intolérances et des allergies qui sont un problème particulier.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est le gluten des blés modernes qui est plus difficile à digérer. Et on va voir l'intérêt du levain, justement, qui prédigère le gluten.
On va voir ça avec vous, puisque le levain a cette fonction évidemment aussi de rendre, on va le voir dans un instant avec vous Marie-Laure, le pain plus digeste. C'est l'heure de notre avocat chroniqueur.
Sur France Inter... À déguster.
Éric Morin.
Il fallait sans doute que ça cesse et mettre un point d'arrêt à l'illusion, pour ne pas dire la tromperie, qui était celle de ces enseignes. Vous savez, genre pommes de mie, brioche argentée et autres micro-ondes de pain mal déconché.
Ah, j'aime bien brioche argentée, ouais, d'accord.
Deux lois, deux réglementations en 1996 et en 1998, sous l'impulsion de Jean-Pierre Raffarin, d'abord comme ministre, puis comme sénateur, sont venues y mettre bon ordre. Le boulanger sera un artisan. Et celui qui n'assumera pas lui-même le pétrissage de la pâte, sa fermentation, sa mise en forme et la cuisson, sur le lieu même de vente au consommateur, celui-là ne pourra pas s'appeler boulanger.
L'intention était donc claire et nette, hein.
Oui,
c'était une volonté politique.
Elle était même louable. Mais en réservant la qualité de boulanger non seulement à ceux qui font réellement leur pain, mais uniquement à des artisans au sens juridique du terme, on a, semble-t-il, ajouté des problèmes à certains de ceux qu'on pensait avoir résolus. J'ai compté, pas moins de 10 lois, décrets et autres arrêtés ont été pris en 20 ans sur le pain. Alors que nos boulangeries de quartier se meurent, alors que des organismes officiels filtrent, certains disent confisquent, les semences dites paysannes, alors qu'on en a ras la levure de manger du pain blanc sec en moins de 2 heures chrono et sans saveur, France, ton pays continue de foutre le camp. Écoutons le poète Lamartine. Ce n'est pas seulement du blé qui sort de la terre labourée, c'est une civilisation tout entière. Alors, soit dit en passant, François Régis, les lois Raffarin n'ont pas visé que les boulangers. Savez-vous que vous ne pouvez pas non plus vous appeler coiffeur, même si vous en brûlez d'envie, Antoine Gerbel, on le sait.
Oui, oui, il rêve de cette reconversion.
Ou maréchal Ferrand,
sans passer... Vous en auriez besoin d'ailleurs.
Oui. Non, pardon. Merci. C'est filmé, ça tombe bien. Sans passer sous les fourches codines d'une formation officielle, un certificat d'aptitude professionnelle et le tampon de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Un pareur naturel de sabots de chevaux sans ferrage, bref, il lui faisait les ongles à l'équidé, a été encore récemment poursuivi et condamné pour exercice illégal de la profession de maréchal ferrant.
Bon, vous me direz, on s'éloigne un peu quand même du pain.
Pas tant que ça, parce que blague à part, cette soi-disant protection monopolistique au nom de la sécurité des consommateurs et de la création de l'emploi est un leurre. Et si la boulange allait mieux depuis 20 ans, ça se saurait, ça se verrait et ça se goûterait même. Alors, si vous êtes un génie du pétrissage, si comme Roland Feuillas, vous y voyez l'expression mystique de l'alliance de la terre et du divin, si comme Paul Magnette, vous faites chanter le pain, si vous aimez mettre les doigts, si vous aimez mettre les mains, jouir de cette érection de la pâte fécondée par un levain viril, oui, oui, je viens de dire ça, alors vous n'aurez pas le droit de le partager et de le vendre au plus grand nombre, parce qu'un boulanger, c'est forcément un CAP de boulanger ou rien. Et tant pis pour les Mozart du pétrissage. Quel talent perdons-nous à les laisser clandestins, mon Dieu ? Alors, il n'y a qu'une exception, il existe un curieux et peu usité statut de paysan boulanger. Mais alors là, non seulement il faut le pétrir sur place, etc., mais il faut avoir soi-même des champs de céréales, les cultiver, les récolter, en faire de la farine, et alors, là, sous cette dénomination, vous pourrez vendre votre pain. De cette chose la plus simple du monde, et l'une des plus anciennes, faite de blé, d'un peu de sel et d'eau, on en a fait une usine à gaz, c'est-à-dire un truc bien plus compliqué qu'un four à pain. C'est très français, certes, mais il n'y a pas de quoi se réjouir qu'il soit plus facile. d'être la fille du puisatier plutôt que la femme du boulanger. Et je pense que Paul Magnette ne me contredira pas.
Non, enfin, bravo d'abord.
Paul Magnette, une réaction ?
Oui, c'est vrai que toutes ces réglementations, elles peuvent paraître très lourdes et c'est dommage si elles empêchent des gens qui ont un vrai talent et qui ont envie de se lancer, d'accéder à cette profession et de vendre leurs produits. À l'inverse, là où il n'y a pas de réglementation, au Royaume-Uni par exemple, il faut savoir qu'il n'y a plus que 3% du pain vendu qui est fabriqué par des artisans. 97% du pain vendu au Royaume-Uni est fabriqué du pain industriel, du pain de mie sous plastique ou du pain final. Et ça,
ça se sent qu'on va à Londres.
Et donc, essayer de trouver la manière de continuer à soutenir les artisans en ce compris à travers des règles comme celle-là, je pense que ça en vaut la peine. Peut-être pas comme ça, mais en tout cas, ne pas laisser libre cours, sinon c'est toujours les plus grands, les plus puissants qui l'emporteront.
Bien dit. Et là, vous avez débouché une bouteille, Éric Morin, en un tout petit mot.
En un tout petit mot, Chenin, ça rime avec pain. Ça tombe bien. C'est seulement le troisième millésime d'un vigneron formidable qui s'appelle Olivier Lejeune. Ça s'appelle Poiesis. Et c'est des arômes. C'est un cépage, le Chenin, avec des arômes de fruits secs, avec un petit peu de fleurs blanches aussi. Et je trouve que ça se marie parfaitement avec le pain. On le trouve au Cap du Panthéon, par exemple. Olivier Lejeune,
oui,
Poiesis.
Ça dit quelque chose à Antoine Jarvel.
Oui, tout à fait. C'est la jeune génération angevine qui redore son blason du Chenin sec. Parce que c'est une région qui avait fait beaucoup de liquoreux, mais le liquoreux ayant moins de débouchés. Et on découvre de grands terroirs grâce à cette génération.
Eh bien, on va faire tourner la bouteille, à boire, évidemment, avec modération. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée, le Studio 621, un auditeur ou une auditrice, pour goûter, juste après notre pause musicale, deux pains mystères. On va jouer, on est très joueurs dans l'émission, on va déguster. Ah oui, il y a une main qui se lève. Ah, eh ben écoutez, rejoignez ce micro, on va vous tendre un petit piège. Et puis, c'est Marie-Laure Fréchet qui va cette fois mettre les mains à la pâte juste après une chanson. Bah, qui invite justement à prendre du temps. Vous disiez que le temps était certainement l'un des ingrédients les plus précieux du pain. C'est ce qu'on va voir avec vous et c'est ce qu'on va voir avec Bertrand Belin et Barbara Carlotti. Lentement.
Clenche.
Cou.
Couteau.
Bijou.
Bouteille.
Sou.
Bibelot de Lourdes.
Marée haute.
Arithmétique.
Noël.
Père Noël.
Tabac.
Obus.
Un passant qui pue.
La nuit. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta dent d'Indien pour lui. Pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache.
Le poing d'un mec sous, écrasé sur une bouche.
Carton,
citron,
étron,
pinson,
coton,
dindon,
houlon,
gazon,
avion,
majesté,
vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse indien pour lui.
Pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement. Tout lentement. Tout finit comme un os. Blanc comme un os. Le temps est si doux.
Toi,
bruit,
Barbara,
la foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art.
Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi,
dégustant mon sorbet cassis devant la télé.
Nu,
clope,
rideau,
paradis.
Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
S'accueillir des mains.
Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin.
L'arrivée magique des kiwis.
Le mariage inattendu de Romola de Pulski.
Avec Nijinsky.
Le journal local.
Le journal familial.
Le savon doux,
tout. Tes commentaires et l'argent sur la terre qui tourne.
Entre ta fait tout. Fasse lentement. Tout, tout lentement. Donne-moi ta main. Allons descendre, sentir ce jasmin.
faire son pain à la maison. C'est une émission à suivre notamment sur vidéo sur franceinter.fr et sur l'appli mobile de France Inter. Qui nous a rejoint au micro ?
Elias.
La bouche pleine ?
Pardon.
Évidemment, puisqu'on vous a demandé de tester deux pains que nous a préparés hier, c'est ça Marie-Laure ?
J'ai démarré hier et ils ont été cuits ce matin.
Ils ont été cuits ce matin. Alors deux pains un peu particuliers. On disait qu'il fallait pas de maquillage, etc. Mais là, il s'agit juste de deux ingrédients qui sont censés apporter une tonalité aromatique au pain. Est-ce que vous les avez identifiés, Elias ? Alors, vous commencez avec une miche qui a la particularité d'être...
Marron.
Foncé, c'est ça ?
Foncé.
Est-ce que là, vous sentez quelque chose ?
Clairement, il y a du cacao.
Clairement, vous êtes. Vous voulez qu'on vous donne la réponse ou pas ? Vous êtes trompé, Elias.
Non, c'est bien sûr un pain au cacao. Cacao et chocolat.
Parce qu'il avait l'air très sûr de lui, quand même. Pain au cacao, absolument. Donc, ça se sent.
Oui, très, très clairement, oui, on le sent. Il est assez aéré.
Oui.
Et même à l'odeur, ça se sent. On sent le cacao et on le sent en bouche.
Intéressant. Et ça vous plaît ou pas ?
Oui, c'est intéressant. Même pour le goûter, je pense, pour les enfants, ça peut.
Cacao et non chocolat.
Absolument, on parle de cacao.
Il y a du cacao et des pépites de chocolat.
Il y a la mer du cacao, très joli.
Et c'est un pain qu'on peut manger pour le goûter, mais aussi en accord avec du salé, avec un fromage, avec un foie gras, par exemple. On peut oser des accords un peu subtils.
Le deuxième pain, plus compliqué.
Plus compliqué, oui.
Est-ce que vous jetez à l'eau ?
Bon, je ne sais pas.
Alors, on va vous aider. C'est un pain fait toujours par Marie-Laure, dont... L'eau, au moment de la préparation, a été remplacée par un autre liquide. Je vous aide. Marie-Laure Fréchet est du Nord.
De la bière.
Bravo.
Liquide du Nord.
De la bière, du pain à la bière, c'est possible et c'est excellent. Alors, on va revenir au basique. Et oui,
ça résout le problème du chlore dans l'eau, en fait, d'une certaine manière.
Oui, ça nettoie carrément.
Astuce du Nord.
Ça participe avec d'autant plus si on choisit une bière naturelle, avec des levures naturelles. Ça participe, j'imagine, aussi beaucoup à la fermentation du pain.
Oui, parce qu'il y a du sucre dans la bière. Et puis là, en plus, je me suis amusée, j'ai utilisé une bière au pain. Voilà, donc la bière cocomiette.
Alors, on va apprendre avec vous à faire, non pas... Tout un pain au levain, encore une fois, toutes les techniques sont sur notre site internet, mais déjà à faire le levain. C'est vrai que le levain, c'est cette espèce de matière, d'agent, de fermentation un peu imprévisible, qui peut faire un peu peur à la maison, faire un levain à la maison. Oulala, on se dit, c'est un truc de pro, un truc de boulanger. Vous dites d'ailleurs qu'on peut éventuellement, pour commencer à faire du pain au levain avec une fermentation longue, frapper à la porte de son boulanger, lui demander un peu de levain. Théoriquement, s'il est gentil, il peut nous en donner un peu. Voir s'il est un peu moins gentil, nous en vendre. Voir s'il est méchant, ne pas nous en donner du tout.
Oui, voilà, toujours dans l'idée que le pain, effectivement, ça peut durer longtemps. Créer son propre levain, ça dure entre 4 et une semaine. Donc si on est pressé, si on veut tester une recette, et si voilà, on n'est pas sûr de réussir du premier coup son levain, on peut effectivement demander à son boulanger ou à la communauté des gens qui font leur pain, tout simplement. On a peut-être parmi nos amis quelqu'un qui fait du pain, donc un peu comme le kombucha
ou le kéfir.
Le kéfir, toutes ces boissons fermentées, on peut aller chercher un petit morceau de levain quelque part et le rafraîchir, l'entretenir. Voilà, ça c'est la technique du pain au levain. Et démarrer comme ça.
Définition du levain.
Le levain, c'est une pâte constituée d'eau et de farine. Et en fait, cette pâte, c'est un petit élevage de levures, au pluriel, et de bactéries lactiques. Voilà. À la différence de la levure, ce qu'on appelle la levure de boulanger, qui est une seule souche de levure, la Saccharomyces cerevisiae, bien connue des boulangers. Dans un levain, il y a une richesse de levures, il y en a une petite dizaine, et des bactéries lactiques, là aussi une petite dizaine, différentes suivant les levains d'ailleurs. Et cette multiplicité de levures et de bactéries va être très intéressante parce qu'elle va créer des fermentations différentes dans le pain, à savoir la fermentation lactique, acétique et alcoolique. Et puis elle va développer aussi des arômes particulièrement intéressant.
Et elle va le voir, comme on dit, donc elle participe au goût du pain, à sa dimension nutritionnelle, elle le rend plus digeste, on l'a vu, puisqu'elle prédigère notamment les gluten de la farine et des
face
céréales.
Face à l'acidité, effectivement, du levain, elle va permettre de mieux conserver le pain aussi. Voilà,
et de mieux le conserver, ouais, de ralentir son processus de dissécation, comme dit Paul Magnette dans son livre.
Hein, dessiccation.
Dessiccation. Pardon, voilà. Je suis dyslexique.
On peut disséquer aussi.
On peut disséquer, mais oui, c'est moins glamour. On est d'accord. Alors, l'horloge tourne malheureusement. On s'y met. Un levain à la maison.
Alors, c'est tout bête, finalement. C'est une cuillère d'eau pour démarrer. Voilà, on va y aller.
Une cuillère d'eau dans un petit saladier.
Voilà. Donc là, pour le coup, je recommande plutôt une autre source. Donc après, pour faire le pain, moi j'utilise comme Paul de l'eau filtrée par un charbon végétal. Mais voilà, pour mettre vraiment toutes les chances de son côté, une autre source, c'est bien.
Très bien.
Voilà, et une cuillère de farine. Là, je vais démarrer avec du seigle, parce que là, le seigle favorise le développement du levain, mmh. parce qu'elle est riche en enzymes, et la dégradation des sucres va se faire plus rapidement. Donc on mélange. Bon, là, je vais en mettre un petit peu plus pour qu'on voit quelque chose. On peut démarrer aussi avec deux cuillères d'eau et deux cuillères de farine. L'idée était ce qu'on appelle un temps pour temps. Donc autant de farine et autant...
Autant de farine, et là pour l'instant c'est vraiment, vraiment simplissime. Et on mélange avec une cuillère, là en l'occurrence en métal. C'est ce que vous entendez.
Et on obtient plus ou moins la consistance d'une pâte à crêpes un peu épaisse, on va dire.
Une pâte à crêpes un peu épaisse, exactement.
Pâte à blémis.
Et ça c'est le départ du levain, c'est ça qui est intéressant. C'est que là vous êtes en train de créer un ensemencement littéralement. De ce mélange va surgir la vie.
Exactement. Donc là, les levures vont commencer à s'activer, à se multiplier. Voilà, tout simplement.
Et ensuite, il y a tout un processus. Alors, on va le résumer assez vite, encore une fois, parce qu'on est un peu pris par le
temps.
Mais
surtout, donc là, on va fermer le bocal, mais pas hermétiquement.
D'accord.
Donc, on peut utiliser aussi un bocal à confiture. On pose juste le couvercle sans le fermer. On peut utiliser un film plastique. Enfin bon, c'est du plastique, donc on peut éviter aussi, percer de trous. Voilà. Et on le laisse dans un endroit plutôt... tiède, voire un petit peu chaud, donc près d'un radiateur. Enfin, l'idéal, c'est 25 degrés à peu près. Voilà. Et on le laisse donc là, ou 24 heures, ou là, dans mon livre, je propose une autre méthode, c'est de le nourrir deux fois. Une fois le matin, une fois le soir, pour activer un petit peu le processus.
Il faut continuer à le nourrir jusqu'à ce qu'on fasse son pain. Ça veut dire que le levain peut être prêt au bout de combien de temps?
Entre 4 et 7 jours. Donc après, il y a plusieurs méthodes. Soit on le... Donc là, effectivement, on a mis à peu près 10 grammes d'eau, 10 grammes de farine, ce qui fait 20 grammes. On peut le nourrir de deux fois son poids. Donc à ce moment-là, 40 grammes d'eau, 40 grammes de farine. Dans le livre, je propose de le nourrir ça, c'est la méthode d'Alex Croquet. L'idée étant de... On peut en parler après, d'économiser la farine. Donc là, on le nourrit deux fois par jour de 30 grammes de farine et 30 grammes d'eau.
C'est ça.
Voilà.
Et ensuite...
Entre deux, on va en jeter. Parce que, en fait, sinon, on va se retrouver avec des quantités exponentielles de levain. Voilà, donc, dans la première phase, on est obligé d'en jeter un petit peu, de diviser son levain, d'en jeter globalement la moitié, pour pas devoir le nourrir, effectivement, on se retrouve avec des 300 grammes, des 400 grammes, des 500 grammes. Et quand, voilà, quand on a fait l'effort de choisir une belle farine, qui coûte généralement un petit peu plus cher, on n'a pas envie de la mettre à la poubelle.
Merci beaucoup pour cette leçon de levain à la maison. Il y a tous les détails, évidemment, encore une fois, sur le
site. On peut-être montrer quand même ce que ça donne.
Et on montre ce que ça donne. C'est une espèce, effectivement, de grosse matière, assez bulée, assez vivante.
Donc ça, c'est un levain vivant, en fait.
Que l'on a dans un bocal. Voilà. On l'a là.
Là.
Merci beaucoup et on passe justement au vin d'Antoine Gerbel.
Ah, alors regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre du lait sur une étiquette de vin que je suis en train de coller, d'ajuster, très mal. Mais pourquoi
vous faites carrément votre...
Je fais mon petit atelier collage d'étiquettes parce que... Déjà, tout le monde peut le faire à la maison. Vous pouvez coller votre étiquette avec du lait entier, un pinceau, vous badigeonnez. Et puis, vous pouvez faire aussi les étiquettes des pots à confiture, de tout ce que vous voulez. Mais surtout, pourquoi cette anecdote? Parce que j'ai pris ma voiture, j'ai quitté Beaune, j'ai fait 100 km du côté de Besançon et j'ai trouvé un personnage incroyable. Un personnage qui a 74 ans, il s'appelle Georges Comte. Ce personnage a, dans les années 80, été passionné de vin. Il a un autre métier qui n'a rien à voir avec le vin. Il était dans l'industrie des prothèses médicales. Mais par contre, il était tellement fou de vin qu'il a creusé sa région en disant « Mais cette région, ce Doubs, avait plus de 20 000 hectares de vignes au XVIIIe siècle. Et il y avait des très bons terroirs qui étaient réputés. » Donc, il a mis un peu d'argent, il a cherché un vigneron, parce qu'il dit « Moi, je suis pas vigneron, je ne sais pas faire de vignes. » Il a trouvé un vigneron pour planter du chardonnay et du pinot noir. Et depuis 89, il fait du vin, mais pour lui. Et il fait du vin sans soufre. Pourquoi sans soufre? Parce que dès qu'il a commencé à apprécier le vin, il a trouvé toujours quelque chose qui le gênait dans tous ses vins, quelque chose d'un peu dur, quelque chose qui bloquait les arômes, quelque chose qui vraiment le gênait. Et il allait voir ses copains vignerons, il en fréquentait beaucoup en Bourgogne, en disant « Mais arrêtez de mettre du soufre !» Et bien évidemment, quand il a commencé à faire du vin, il n'en a pas mis. Alors il s'est cassé la figure, il a loupé des vins, il a mis du vin, comme il dit, à l'égout, il en a fait des fois du vinaigre. Et progressivement, il a maîtrisé cette technique.
qui est une technique très délicate où il faut avoir une hygiène très importante dans sa cave. Alors quand vous voyez sa cave, c'est absolument pas le cas. C'est un hangar, un capharnaüm incroyable, mais il a réussi en 30 ans à faire ce que vous avez dans votre verre. C'est un chardonnay donc sur le petit secteur qui s'appelle le Moutreau, un chardonnay de 2002. Alors quand on dit que les vins sans soufre ne vieillissent pas, voilà. Et ce côté violet, pardon, ce côté noisette, ce côté grillé, cette énergie, cette fraîcheur qu'on a dans ce chardonnay, très honnêtement, je ne le retrouve quasiment plus dans les vieux Meursault, dans les vieux Puligny ou dans les vieux Chassagne. Simplement pour dire que voilà, il est peut-être pas bien né sur le papier, mais il nous raconte une histoire extraordinaire. Georges Comte, 74 ans. Alors, il a quelques bouteilles, il y a quelques cavistes aventuriers qui le vendent à Besançon, le Zinzin, qui est très connu à Besançon. Et puis à Paris, je les trouve au Cave des Papilles dans le 14e. Des vrais aventuriers qui vont vous faire découvrir le vrai goût du chardonnay.
Boulanger amateur ou vigneron amateur, même combat. Paul Magnette, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Laure Fréchet. Et à dimanche prochain, si vous avez encore faim.